Vous écoutez RTL.
RTL.
Madame, monsieur, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de vous resituer brièvement pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Vous avez été donc tout d'abord ministre du budget, ensuite ministre de la santé, un court passage à l'intérieur, après quoi vous avez été ministre de l'agriculture.
Ah non, de la culture.
Non, de l'agriculture.
Sidonie Bonnec.
Ah bon, c'est possible.
Ouais. Thomas Hugues.
Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des logements spacieux et de la réinsertion sociale.
Ah, oui, vous avez oublié mon court passage au ministère de la jeunesse et des sports.
La curiosité.
Ah bon, vous en êtes sûr, parce que là, je...
Vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir.
Les inconnus, le jeu de la vérité vraie.
C'est criant de vérité.
Non, c'est un tout petit peu exagéré, on va dire ça comme ça. Orgueil, alors on a mis du temps à tous les retrouver. Orgueil, colère, luxure, paresse, gourmandise, avarice et envie, les sept péchés capitaux. Ben, ils collent aussi très bien à ceux qui nous gouvernent et c'est ce que va nous raconter notre invité. Bonjour Olivier Beaumont.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue,
chez nous.
Vous êtes journaliste au Parisien. Vous avez répertorié ces défauts. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actu nous rattrape. Christophe Castaner, en boîte de nuit, vous le classez dans quelle catégorie ?
On pourrait le mettre dans deux catégories. La gourmandise, puisque l'ivresse, on peut l'assimiler, oui, en effet, une forme de gourmandise. Et puis peut-être un petit peu la luxure aussi, parce qu'il a été pris la main dans le pot de confiture en charmante compagnie.
On va dire ça comme ça. Et puis alors, quelques jours plus tôt, il y avait Jack Lang. On apprenait qu'il s'était fait offrir pour, je crois, 200 000 euros de costume en 5 ans par une maison, oui, de mode, là, la maison Smalto. Lui, c'est quoi ? C'est plutôt l'avarice ?
Oui, puis ça rappelle furieusement un autre cas dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, celui de François Fillon, qui avait été aussi épinglé pour l'affaire des fameux costumes qui avaient bien perturbé sa campagne présidentielle.
Qui coûtait très cher, c'est vrai. Ouais. Olivier Beaumont, vous publiez Les péchés capitaux de la politique, c'est chez Flammarion, et ce livre, c'est pour ça qu'on l'a beaucoup apprécié, fourmille d'anecdotes assez incroyables. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, débarque à Perpignan, on est le 3 juin 2005, vous nous rappelez un peu le contexte ?
Nicolas Sarkozy vient d'être à nouveau nommé à Beauvau, hein, c'est son retour au ministère de l'Intérieur. Ça suit la passation de pouvoir avec Dominique de Villepin et pour marquer un coup médiatique et politique, il décide en effet de descendre à Perpignan où il y a eu des émeutes depuis plusieurs jours avec deux morts notamment, hein, des violences entre les communautés gitanes et musulmanes. Et donc Nicolas Sarkozy veut faire un coup en effet en descendant et donc en rencontrant les associations maghrébines et gitanes. Et aussi les associations de victimes.
Donc il arrive, Nicolas Sarkozy, à la préfecture de Perpignan. Exactement. Et il doit enchaîner deux réunions.
Exactement.
Avec qui ?
Deux réunions dans deux salles différentes, une avec les familles de victimes d'un côté et l'autre avec les représentants des associations maghrébines et gitanes. Mmh. On lui dit, monsieur le ministre, allez tout de suite dans cette salle. Il pense se retrouver en effet devant les associations communautaires et donc il leur fait la leçon. Sauf que
il les engueule.
Sait pas, c'est qu'il s'est trompé de salle en fait. Oui. Il les engueule en leur disant, écoutez, ça va être très simple. Là, je viens d'arriver. À partir de cet après-midi, de ce soir, ça va être perquisition, interpellation, mandat de dépôt, tout le monde au poste.
Et voilà. Par qui en réalité ?
Et en fait, en face de lui, il a les familles de victimes. Il a des gens en larmes.
Il commence à pleurer, oui. Parce
il
que
commence
ça nous
à pleurer.
Rire, mais
et d'ailleurs, il pense qu'on se dit, mais monsieur le ministre. Et là, il la couille. Il dit, non, mais attendez, moi, le coup des larmes, on me l'a déjà fait, ça ne va pas le faire. Et il les avoine. Et ce qui. Personne, en fait, n'ose le reprendre. Il y a ses collaborateurs à côté de lui, derrière lui. Et on connaît, hein, Nicolas Sarkozy, oui, il a ce tempérament très, très sanguin et ses colères sont très homériques. Et voilà, et on va seulement finir par lui dire seulement à la toute fin, en fait, en sortant.
Mais là, ça a dû le mettre encore plus en colère, ça, Nicolas Sarkozy. Il est
oui,
passé
du
pour,
coup, pour se faire pardonner, il recevra les familles de victimes quelques jours plus tard à Beauvau.
Nicolas Sarkozy en mode colère, comme ce 17 mars 2016. Alors là, on est dans la campagne des primaires de droite. Il est à Londres, et ça se passe pas très bien. Pourquoi ?
Oui, parce que en effet, on est en pleine campagne pour la primaire. Il a fait un meeting avec les sympathisants de droite LR qui sont installés à Londres, qui s'est pas très bien passé. La salle était à moitié vide. Le soir, il a fait un dîner de levée de fonds qui a pas permis de récolter beaucoup d'argent. Donc, mauvaise journée, clairement, pour Nicolas Sarkozy. Et alors, cerise sur le gâteau, son vol de retour, en fait, il est censé partir de l'aéroport de London City, donc du centre de Londres. Et il apprend, en fait, qu'il va partir de l'aéroport de Luton. Donc, c'est à une heure au nord de Londres, ce qui va le faire rentrer à 2h30 au Bourget.
Donc nous voilà dans l'avion.
Il est en colère et du coup, il se met à avoiner l'ensemble de ses collaborateurs. C'est un petit avion, hein, c'est une forme de jet en fait. Et il tourne en boucle, il est en colère et puis tout le monde en prend plein pour son grade. Et en fait, il s'arrête pas et en fait, ça en devient presque comique. En fait, il s'emportait tellement et il gesticulait, il bondissait sur son fauteuil que les gens se retenaient presque pour ne pas rire. Et le grotesque va jusqu'à un moment donné, en fait, comme il est tard, d'un coup, il s'endort et il rouvre les yeux, il se réveille et il reprend, en fait, sa conversation qu'il avait lâchée 5 minutes plus tôt.
Il reprend l'engueulade précédente.
Exactement.
Bon, Nicolas Sarkozy qui n'a pas qu'un seul péché, il a aussi la gourmandise et surtout le chocolat. Ça se passe comment ces débuts de rendez-vous dans ces bureaux de la rue?
Alors il y a un petit rituel en effet quand
Miromesnil
il reçoit
à Paris, ouais.
Rue de Miromesnil dans ces bureaux de d'ancien président de la République. C'est vrai qu'il y a toujours un rituel, c'est que Nicolas Sarkozy, il adore le chocolat et beaucoup de gens, ses fans continuent de lui apporter souvent du chocolat. Et donc dans son bureau, il y a une boîte en bois sur la table basse avec plein de morceaux de chocolat et la tradition veut que à chaque fois il demande à son invité de prendre un morceau de chocolat. Alors si on dit non mais c'est bon, mais si vas-y, serre-toi.
Pourquoi il insiste comme ça?
Et en fait son entourage dit mais en fait c'est juste une excuse parce que lui il va en prendre un, mais comme c'est pas très poli de se servir tout seul devant ses invités, c'est une manière de dire serre-toi, comme ça moi aussi je vais me servir.
Mais il en reçoit vraiment beaucoup?
Oui. Il y a une anecdote aussi que je rapporte dans ce livre. On se souvient de ce malaise vagal que le président de la République à l'époque avait fait donc en juillet 2009. Hein, il faisait un footing il était à la Lanterne, la résidence secondaire des chefs d'État. Et donc, en effet, il avait entrepris un régime quelques semaines avant et donc il fait un malaise vagal et donc il va être hospitalisé pendant quelques jours pour se reposer. Oui. Et au même moment, en fait, au Palais de l'Élysée, ils vont recevoir des centaines, même des milliers de boîtes de chocolat, 4000 en tout, de fans qui vont lui livrer des petits morceaux de chocolat par sympathie.
Bon,
en fait,
on espère que les chocolats qu'ils
se remettent
à ses convives rhumés et rhuminés ne datent pas de 2009. Non, je crois qu'il en reçoit encore et des très bons. La semaine dernière, vous avez peut-être été surpris par cette déclaration de Marine Le Pen.
La France croit qu'on est à 36 euros, me semble-t-il. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire un SMIC européen si ce n'est avec un moins 10 ans?
Vous êtes à 36 euros, c'est-à-dire
en
quelle
baissant...
durée, Madame Le Pen?
Bon, le SMIC, c'est plutôt autour de 10 euros de l'heure. La présidente du Rassemblement national qui s'en mêle quand elle parle d'économie, il y a une explication liée à l'un des 7 péchés capitaux. Lequel? Réponse juste après la pause sur RTL.
Amendement numéro 12, présenté également par Madame Le Pen.
RTL.
La jurisprudence n'a jamais reconnu jusqu'à présent l'obligation pour les parties ou pour le juge d'ailleurs de réviser le contrat en cas... Pardon?
Excusez-moi, Madame la députée, là, vous avez l'amendement numéro 12 sur l'article 4. Celui-là. Non, ça ne doit pas être celui que vous présentez.
La curiosité est un vilain défaut.
Décidément, on va y arriver.
Je m'appelle Jean-Marie, je viens pas de la Tessie. Je viens prendre un village qui s'appelle Hénin, Beaumont.
Marine Le Pen, un peu perdue dans ses papiers à l'Assemblée nationale, les péchés capitaux de la politique, c'est le thème de notre curiosité sur RTL et le titre aussi du livre de notre invité, publié chez Flammarion. Olivier Beaumont, vous y dévoilez une Marine Le Pen plutôt en mode paresse. Alors, un exemple concret, on est en 2013. Que lui présente l'ancien économiste du FN, Bernard Monod?
Il lui présente une note sur les conséquences possibles de la France de la sortie de l'euro. C'est une note très sérieuse qui a été rédigée notamment par des experts de la Banque Centrale Européenne. Et donc, il lui dit, Marine, ce serait bien que tu lises cette note parce que ça peut être intéressant. En plus, on était après la présidentielle, on sait qu'elle a été très critiquée sur ce sujet-là. C'est un sujet de faille claire dans le programme économique de Marine Le Pen. Et donc, il lui donne cette note de 18 pages, il lui fait transmettre et quelques jours plus tard, il la ressollicite en lui disant « Est-ce que tu as regardé, est-ce que tu as jeté un œil sur cette note ?» Et en fait, elle lui renvoie, presque elle lui balance même, avec le document, avec une grande croix rouge sur toute la première page et en lui disant « Moi, les notes de 18 pages, je ne les lis pas. » Et c'est vrai que ça résume assez bien finalement le mode de fonctionnement de Marine Le Pen qui se nourrit essentiellement de fiches. On a vu qu'elle avait été fragilisée sur ces questions-là lors de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.
Mais c'est ce que j'allais
face
vous
à Emmanuel
dire,
Macron.
Notamment sur la question de la sortie
exactement,
de l'euro.
Exactement, elle parlait des culs et tout ça, c'est totalement perdu. Et c'est vrai que son père dit d'elle qu'elle a l'effort sélectif. Marine Le Pen, c'est une laborieuse qui on peut lui proposer n'importe quel déplacement, elle y va, tout ça. Mais c'est vrai que sur le travail entre guillemets... plus intellectuel, où il faut aller vraiment faire des recherches de fond et tout ça. C'est quelque chose qu'elle a, au dire de tous ses collaborateurs, elle a plus de mal, en effet.
Et elle fait peut-être aussi confiance à son bagout, son talent d'avocate.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Elle a cette formation, elle a cette faconde, en effet, qui lui vient aussi de son père. Hein. C'est une Le Pen, c'est une bête politique. Et donc, ça lui permet, dans 99% des cas, on va dire, de briller, je veux dire, oralement. Et puis, bon, il suffit qu'on tombe un petit peu dans les chiffres. Et là, là, ça devient un petit peu plus compliqué.
Mais faut faire attention, parce que si tous les collaborateurs ou collaboratrices balancent, après, elle faudrait peut-être qu'ils se mettent à bosser.
Ça balance pas mal au Front National.
C'est vrai.
Ouais, oui.
Et alors, ça balance pas mal aussi au ministère de la Transition écologique à propos du passage de Nicolas Hulot. Oui. Lui aussi, on peut lui reprocher comme péché la paresse.
Oui, alors ça, c'était une des surprises aussi de cette enquête. On savait que Nicolas Hulot n'était pas heureux dans ce ministère. Il s'en était plusieurs fois épanché dans les couleurs du pouvoir pendant tout son passage, en effet, à la transition écologique. Et quand il est parti, les langues ont commencé à se délier de la part de pas mal de quasiment l'ensemble de ses collaborateurs même, et aussi de beaucoup de ministres qui disaient, mais en fait, le problème de Nicolas Hulot, c'est qu'il ne travaillait pas ses dossiers. Il pensait que tout Nicolas Hulot qu'il était, il était arrivé, et que ça allait suffire pour faire bouger les questions de transition écologique et d'écologie. Mais en fait, non. Et Nicolas Hulot, ce qu'il y a, c'est que ses dossiers, il ne les travaillait pas. Souvent, ses collaborateurs, ils se rendaient compte que dans les réunions techniques, ils ne maîtrisaient pas les dossiers. Puis surtout, ils ne s'investissaient pas dans le travail de relation avec les parlementaires. Ils n'aimaient pas faire des déplacements. Il y a cette anecdote que je rapporte aussi, où il y avait un séminaire gouvernemental dirigé par Édouard Philippe qui avait été organisé un dimanche. Et il avait refusé d'y aller en prétextant que le dimanche, on se repose. Parce que tous les week-ends, Nicolas Hulot, à partir du vendredi de la mi-journée, il partait dans sa propriété de Bretagne à Saint-Lunaire.
Bon, alors après la paresse, Olivier Beaumont, voici l'orgueil arrivé. Et une autre anecdote qui concerne Emmanuel Macron. Il est président depuis quelques semaines et c'est le 18 juin 2017. Il est 20h et son parti La République En Marche vient de remporter les législatives. Comment il réagit ?
Ah, il a une réaction qui va glacer tout son entourage, parce qu'il a connaissance des chiffres quelques minutes, une heure avant, parce que on a toujours un peu les tendances principales, en effet, une heure vers 18h, 19h, et il est dans son bureau, et il décide en effet de descendre au rez-de-chaussée à l'Élysée pour rejoindre ses collaborateurs et une partie de ses supporters, en effet, pour assister à l'annonce officielle du chiffre. Et là, il y a cette phrase qu'un de ses proches lui dit, alors je vais le dire à l'antenne, hein, il glisse un putain comme ça, et en tapant Macron de joie, oui, en disant, parce qu'il a fait un score avec des projections pour le second tour, qui savent qu'il va avoir une majorité écrasante à l'Assemblée, et donc il tape Macron sur l'épaule, et là il y a cette réaction qui va glacer tous les témoins de la scène. C'est-à-dire que Macron va d'abord regarder son épaule, il va regarder le type, il va à nouveau regarder l'épaule, et là ceux qui ont assisté à la scène, ils m'ont dit, c'est là qu'on a vu en fait que bah ouais, c'était plus notre pote, c'était le président, et que bah ouais, que c'était Jupiter, en effet.
Il a changé
le pouvoir, et en effet cette verticalité qui lui était beaucoup reprochée aussi, cette forme d'arrogance aussi, hein, que vont lui reprocher aussi les Français au plus fort de la crise des Gilets jaunes, en effet, elle a commencé à venir en effet dès qu'il a endossé ses habits de président.
Et c'est pour ça que votre livre publié chez Femmes Larion est intéressant, parce qu'on découvre aussi en filigrane ce que peuvent être le destin des politiques, et on croit certains de leurs comportements dans l'actualité s'expliquent par ces anecdotes et ses péchés.
Et c'est pas fini, on a encore plein d'anecdotes à compter, comme ce jour de mars 2014, où un homme politique parisien va lourdement draguer un étudiant en journalisme. La luxure au programme de notre curiosité.
Les hommes politiques sont marrants, encore que je ne pense pas qu'ils nous feront un jour autant marrer qu'ils nous emmerdent.
Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Thomas Hugues,
perlimpinpin.
Sidonie Bonnec.
Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers.
RTL.
Répondez en fait jamais aux questions. Très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer.
La curiosité est un vilain défaut.
Et on est toujours avec le journaliste politique Olivier Beaumont. Vous avez enquêté sur ces péchés capitaux de nos élus pour un livre publié chez Flammarion. Et forcément, la luxure y est présente. Alors, on ne va pas citer le nom de cet homme politique parisien qui fait campagne pour une des candidates à la mairie en mars 2014. Bon, on imagine la scène. Il a un rendez-vous, il est suivi par un étudiant en école de journalisme. Ouais. Ça commence gentiment, c'est ça ?
Oui, cet étudiant doit réaliser un portrait dans le cadre de cette campagne. Cette personnalité, elle est tête de liste dans un des arrondissements de Paris, et donc l'idée, c'est de suivre pendant 24 heures, pendant une journée, cette personnalité politique. Et au début, ça commence en effet sur une déambulation, tractage dans les trottoirs et tout ça, et puis ça va commencer à glisser tout doucement par un verre, en fait, dans un bar, où de la politique, la conversation va glisser doucement mais tranquillement sur les goûts musicaux de cet homme politique qui part très vite de Madonna. Alors, au début, l'étudiant, il ne comprend pas trop. Alors, l'étudiant à l'école de journalisme, il dit, oui, Madonna, quand même, quelle carrière à la rue. Et puis, elle est transgressive. Madonna, elle est audacieuse et tout ça. Et l'audace, c'est important en politique. Et il insiste lourdement là-dessus. Bon, très bien. Ouais. La journée se poursuit. Il y a la pause déjeuner. Mmh. Et donc, cette personne dit, ah bah, écoute, c'est plus simple que tu viennes manger chez moi, en fait. On ne va pas aller dans un bistrot et tout ça. Donc, Bon, bah, l'étudiant, il suit, hein, parce qu'il a son sujet à faire, il débute et tout ça. Et donc, la personne commence à préparer le repas, elle prépare des pâtes, des macaronis.
Donc, il se retrouve, cet étudiant, chez le candidat.
Exactement.
Qui lui prépare des pâtes.
Des pâtes, et il dit, tiens, je vais rajouter du curcuma, parce que c'est aphrodisiaque.
Ah, bon, là, ça sent plus bon.
Alors, il commence à se dire, bon, il commence un peu à briller encore un peu plus. Ouais. Le repas se passe et tout. Et puis, cette personne qui dit, ah bah, je vais me reposer, en fait, je vais faire une petite sieste. Mais si tu veux rester à côté, regarder la télévision, tu peux, tu mets les chaînes infos et tout. Bon, alors là, il est un petit peu encore plus gêné, notre étudiant. Et donc, la personne va dans sa chambre à côté. Et puis, tout d'un coup, pendant que l'étudiant, il regarde BFM. Mmh. Il reçoit un texto.
Il aurait pu choisir CNews, franchement.
Et, mais peut-être qu'en fait... Peut-être qu'en fait,
il faut écouter la radio, de toute façon.
Bon, voilà. En tout cas, il est devant sa télé. Et il reçoit un texto. Et là, de la personne qui est dans le pièce à côté, qui lui dit « Tu ne veux pas me rejoindre ?» Et qui finit ce message par « De l'audace
oh, ». Quelle manipulation.
La fameuse phrase. Et donc là, notre étudiant va se lever et va considérer que...
Oui, il aurait pu partir plus tôt, mais bon,
c'est quand même... Je raconte cette scène parce que c'est juste dingue et sidérant qu'une personnalité politique comme ça, qui est engagée dans une campagne comme celle de Paris, prenne
risque, vous voulez dire.
C'est un risque.
Bah, c'est intolérable pour n'importe quel homme et femme.
C'est
du harcèlement pur. Mais en plus, il se doute bien que ça va être raconté en prenant le risque aussi que ce soit même diffusé publié à un moment donné. Et d'ailleurs, cet étudiant, il l'a raconté en effet dans son école de journalisme et tout
en
ça.
En balançant le nom.
Mais bien sûr, en balançant le nom.
Mais ça veut dire, qu'est-ce qui les anime, ces politiques? Alors, c'est l'impunité? Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout?
Parfois, tout est permis et que ça renvoie aussi le côté vu à la télé, en fait. Et puis, dès qu'on est un petit peu médiatisé et tout ça, avec la notion de pouvoir aussi, hein, que la politique ça donne, on se dit, on se permet de tenter. Mmh. De tenter. Mais ça, ceci dit, moi j'avais eu une conversation avec un député qui m'avait raconté, mais tu n'imagines pas à quel point, en effet, on est très sollicité dès qu'on devient un petit peu médiatisé. Et il me dit que dans sa circonscription, très régulièrement, en fait, il peut aussi recevoir des
avances,
l'exposition médiatique et quelque part d'incarner une forme de pouvoir aussi. Ça inclut aussi un jeu de séduction qui parfois peut être un petit peu limite ou malsain, en effet.
La politique, c'est on va aussi leur trouver quelques excuses. C'est pas un métier, pas pour ce cas particulier, hein, qu'on vient de raconter, mais c'est pas un métier facile, c'est même violent parfois. Et Jérôme Chartier a payé pour le savoir. D'abord, il faut nous rappeler quel était son rôle pendant la dernière campagne présidentielle.
Alors, Jérôme Chartier, peut-être que c'est pas le plus connu, mais en tout cas, les gens voient très bien à quoi il ressemble, parce que pendant toute la campagne de la primaire de la droite et la fameuse bataille Copé-Fillon, c'est celui qu'on voyait toujours derrière François Fillon. En fait, c'est un grand garçon, il a été longtemps député du Val d'Oise, et donc pendant la campagne présidentielle, il était propulsé conseiller spécial du candidat François Fillon. Il était promu à un poste ministériel en cas de victoire de François Fillon. Et très vite, en fait, quand la campagne de Fillon va commencer à dévisser avec cette fameuse affaire, l'affaire Pénélope, l'affaire des costumes qui va suivre et tout ça, il va être embarqué dans ce tourbillon-là. Il va aussi sentir qu'il va commencer à être un petit peu mis à l'écart, en fait, quelque part de l'organigramme. Et il va sombrer progressivement, en fait, dans une dépression qui va se manifester par une boulimie. Et c'est un témoignage assez bouleversant, hein, qui m'a raconté... pour ce livre, en fait, c'est que il n'osait pas en parler. Il s'est isolé. Et en fait, tous les soirs, avant de rentrer chez lui pour retrouver sa compagne, qui est connue aussi, hein, Virginie Calmels, il allait au restaurant. Il prenait
son
trois
ex-compagne.
Entrées,
voilà,
son ex. Et il se prenait trois entrées. Il se gavait de pain et tout ça. Et il mangeait pour essayer de compenser, en fait, tout ce qui lui tombait. Et puis surtout, il a vraiment caché tout ça. Et donc, il a sombré dans une dépression. Ce qui fait qu'en quelques mois, il a pris 15 kilos et il va mettre un an à s'en remettre. Et curieusement, le déclic, il va se produire le 23 avril 2018, mais il va commencer à reprendre son téléphone et à reprendre un petit peu une vie publique, entre guillemets, un an après la défaite de François Fillon.
Un autre péché à venir sur RTL, l'avarice. D'après vous, qui était surnommé Picsou ou Harpagon ou le Radin par ses lieutenants? Réponse dans un instant.
Et puis juste après, on découvre les survivalistes, ces femmes et ces hommes qui s'entraînent pour survivre en milieu hostile. Et là, on ne parle plus de politique, je vous promets.
Monsieur Landier, quel président serez-vous?
Je serai le meilleur dresseur.
RTL.
Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
Il est en train de déblatérer le générique des Pokémon, là.
S'il vous plaît, respectez le temps de parole de chacun.
C'est le générique des Pokémon.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je parcourrai la Terre entière, traquant avec espoir les Pokémon.
Il a dit Pokémon.
Et alors ?
La curiosité est un vilain défaut.
Quand les humoristes de Studio Bagel parodient les débats d'entre-deux-tours, bah c'est du n'importe quoi. Évidemment, on découvre les défauts de nos politiques avec le journaliste du Parisien Olivier Beaumont. Et on termine donc avec l'avarice et cet homme politique surnommé Picsou ou encore Harpagon par ses lieutenants. Alors, de qui s'agit-il ?
Le radin aussi, c'est Jean-Marie Le Pen. En effet...
Vous citez notamment des anecdotes de déjeuner de
Oui, ses collaborateurs, il avait pour habitude, en fait, quand il était président du Front National, en fait, c'était un seul plat, c'était du poulet froid. Et là, c'est l'ancien collaborateur. Le nombre de repas au poulet froid qu'on a pu manger à Montretout.
Parce mais sans
que
garniture poulet,
ça, c'est quasiment si, avec des chips ou des.
Mais voilà,
parce que ça coûte pas cher, c'est frugal. Et puis, ça fait pas grossir. Donc, en plus, ça lui permettait à Jean-Marie Le Pen de surveiller la ligne de ses collaborateurs.
Le poulet froid, peut-être, les chips, on peut en
peut-être un peu moins. Mais c'est vrai qu'il a un rapport un peu compliqué avec l'argent, Jean-Marie Le Pen, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, hein, clairement, hein, depuis qu'il a hérité de la fortune Lambert à la fin des années 70, mais il ne cesse de rappeler bien sûr qu'il a grandi dans une maison avec un sol en terre battue, lui le pupille de la nation, et c'est vrai qu'il a gardé ce côté-là très près de ses sous en fait, et c'est vrai que raconte ses collaborateurs qu'ils aient payé les photocopies, qu'à l'époque de la présidence du FN, ils surveillaient même les factures téléphoniques, et dès que ça dépassait 10 francs, parce qu'on parlait en francs à l'époque, et bien ils demandaient des justifications, et voilà, ouais, il y a ce côté comme ça, petit chose en fait, et cette inquiétude quelque part de peut-être un jour, à un moment donné, se retrouver sans sous qu'il a gardé. Et lui considère qu'il est paradin, qu'il est économe. Il considère que moi, quand je quitte une pièce, par exemple, j'éteins la lumière.
Donc, c'est un bon principe.
C'est un principe de bon sens, en effet, mais qu'il n'aime pas quand les gens disent que Jean-Marie Le Pen, il est radin. Et pourtant, d'ailleurs, ses filles le disent. Hein, OK, elles ont vécu dans cette maison, cette demeure comme ça, de l'autre côté de la Seine, à Montretout, dans un parc privé à Saint-Cloud. Mais ceci dit, elles n'avaient pas d'argent de poche. Les premières voitures qu'elles ont eues, c'était des vieilles Zocas, des vieilles guimbardes avec 100 000 km, tout ça. Donc voilà, il y a ce côté comme ça. Et d'ailleurs, la maison, la demeure de Montretout, globalement, était pendant très longtemps très, très mal entretenu.
Merci beaucoup Olivier Beaumont. Il y a beaucoup d'autres anecdotes à découvrir dans ce livre, Les péchés capitaux de la politique, publié chez Flammarion. À bientôt, merci.
À bientôt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.